Bonjour à tous, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur de RDWA. C'est Fred et Pierrick qui sont là pour vous parler d'astronomie.
Et bonjour.
Salut Fred, ça va?
Ça va, Pierrick, et toi?
Ben ouais, écoute.
Alors,
Alors, au programme ce soir.
épisode 12 de l'Étoile Polaire, ou 11,
11,
11, pardon,
épisode
11.
11.
Ouais, c'est vrai.
Au programme, le ciel ce soir. Petite question d'actu, les astéroïdes interstellaires. Un point d'astro, Fred, tu vas nous parler des mesures de distance pour la troisième fois.
Ouais, la suite des mesures de distance. Et du coup, on
Notamment.
va parler d'expansion de l'univers.
Ok, une petite mousse musicale. C'est à toi de la concocter, Fred. Moi, je vais vous parler du télescope spatial Hubble. Puis on va finir par la rubrique à braque. On va parler de Edwin Hubble. Donc là, c'est toi, Fred, tu vas nous parler de.
Je vais présenter le travail de cet astronome et on parlera aussi du coup d'Einstein un petit peu.
Ok, au top.
Ok, alors on commence par le ciel ce soir. Et ben là, on est en plein dans le ciel d'été. Quand le soleil se couche, on commence à voir bas sur l'horizon le scorpion. Ça, c'est quand même chouette de l'observer. Alors, il est bas, mais c'est toujours un plaisir. Ensuite, le Sagittaire, on le voit bien aussi. Et assez vite en début de nuit, entre le Sagittaire et le Capricorne. Vont se lever Jupiter et Saturne. Voilà, donc là c'est pour tout ce qui est bas sur l'horizon et sinon le ciel d'été, hein, donc la Grande Ourse qui nous amène, je rappelle, en suivant l'arc du manche de la casserole, on tombe sur cette étoile très brillante Arcturus dans le Bouvier. Ensuite la Couronne, cette belle constellation en trois quarts de cercle. Avec en son centre une étoile très brillante, Margarita, ou la Perle, on l'appelle aussi. Et là, en fait, il y a une ligne entre Arcturus, la Perle, qui vous amène à Hercule. J'ai déjà mentionné cet alignement, mais c'est vraiment un classique du ciel d'été pour se repérer. Là, le grand H d'Hercule. Et ensuite, le triangle d'été dans la Voie lactée. Toujours là, toujours présent. Je vais mentionner une petite curiosité quand même pour les astronomes amateurs. C'est un bon moment l'été pour observer les dentelles du cygne. Les dentelles du cygne, c'est une nébuleuse, donc du gaz. Et elles sont vraiment. C'est vraiment des filaments. Ça fait des structures qui sont vraiment belles dès qu'on peut grossir un peu au télescope. Sur un 200, un 300, c'est vraiment joli. Donc les dentelles du cygne, toujours bon à observer en été. Et voilà pour le ciel, on va pas en dire plus là-dessus, on vous laisse en profiter. Et on va faire un petit focus sur les planètes. Et là, Pierrick, tu m'as dit que tu avais fait quelques observations avec le 115.
Ouais, j'ai pris le temps un peu d'observer le ciel, ce qui n'est pas toujours évident, mais là j'ai un peu de temps. Et donc au 115, en ce moment, il y a Jupiter qui est, tu l'as déjà dit Fred, mais c'est un vrai phare dans le ciel, elle brille super fort.
Oui.
Elle sort assez tôt en début de nuit. Et donc au 115, déjà à l'œil nu on la voit bien, et au 115 c'est sympa, elle est facile à pointer. Et bon,
Et alors, qu'est-ce que tu vois au
moi je vois
115?
les traits de Jupiter, pas les traits,
Les bandes.
les bandes.
Ouais, les bandes de couleur un peu ocre, orange.
Voilà,
Ouais.
des bandes blanches et des bandes ocre comme ça. Donc ça c'est sympa à observer.
Donc ça, tu le vois au 115.
Ouais.
Alors du coup, quel oculaire t'as pris pour observer? Tu te souviens?
Alors un petit. Alors au début un grand champ là. Je crois que c'était un 25 mm. Et après le plus petit que j'ai, c'est un 8, je crois.
Le 8, ok.
Voilà. Donc au 2 on voit les bandes, mais au 8 elles sont un tout petit peu plus. On les voit un peu mieux quoi. Mais la mise au point est plus
Plus
difficile quoi.
délicate,
C'est
ouais. Et
délicat. Ouais.
l'image est pas trop. Ça bougeait pas trop là, parce qu'elles sont basses quand même encore
Un
sur
petit
l'horizon.
peu, ouais.
Pas plus que ça, quoi.
Mais bon, après, je suis pas un expert, hein, mais en
Non, non,
tout
mais
cas, moi,
ça, tu
ça
vois vite
m'alerte.
si l'image elle bouge ou pas. Ça, il n'y a pas besoin d'être un expert pour voir si ça. Si vraiment il y a beaucoup de l'atmosphère quand on observe bas, vraiment ça fait
Ouais, ça.
turbuler, quoi.
Ok.
Ça, toute l'image ondule. Là, bon, ça allait. Ok, super.
On voit les lunes aussi.
Ah oui, les
Deux
satellites de
lunes, deux
Jupiter,
satellites, ouais.
là.
Oh, c'est toujours cool à observer.
Là, par contre, c'est des petits points.
C'est des petits
Juste
points
des petits points
brillants,
lumineux.
ouais.
Là, on résout rien. Ok, et un peu plus tard dans la nuit, il y a aussi.
Bah juste après, il y a Saturne qui est
Ah
juste
oui,
en
bah il y a Saturne,
juste qui se lève peu de temps après, qui est plus faible à l'œil nu, mais qui est juste dessous. Et qui est au télescope, c'est super parce que tu vois les anneaux et ça, c'est cool.
Et au 115, est-ce que tu vois les divisions dans les anneaux?
Non.
Non, tu vois juste des anneaux.
Non, juste des anneaux.
Ok.
Pour les enfants, c'est super quoi.
Mais ça, c'est
Mais pour
vraiment des
moi, je suis trop
observations
content.
qui sont faciles, quoi.
Ouais.
Et qui sont vraiment chouettes. De toute façon, le planétaire, c'est un peu la base quand même. La
Ouais.
Lune, les planètes, c'est ce qui est le plus facile.
Et donc après, plus tard dans la nuit, il y a Mars qui se lève.
Ouais.
Donc elle est plus dans les poissons et c'est plus vers 2 h du matin que commence à...
C'est ça, parce qu'à mesure que la nuit avance, en fait, il y a Pégase qui va se lever. Et donc, sous Pégase, il y a les poissons. Passage, moi je trouve que cette constellation des poissons, elle n'est pas si évidente à repérer, à se mettre dans l'œil, parce qu'elle est quand même assez étendue et un peu diffuse. Donc il y a vraiment deux poissons qui se rejoignent sous Pégase. Et ok, donc Mars est là.
Et Mars est super brillante, elle est bien orangée là, on voit qu'elle, franchement, on peut pas se
Ouais,
rater.
orangé, roux, presque rouge, je crois.
Presque rouge, ouais. Voilà.
Je l'ai vu l'autre soir aussi.
Bon, et là au télescope, j'ai vu une petite bille orange, quoi, mais orange-rouge,
Ok, les calottes?
mais. Non, j'ai
Non.
pas vu ça. Donc, peut-être, des fois, il y a des tempêtes sur Mars, apparemment, du coup, ça fait qu'on voit pas les calottes.
Ah oui. Je sais pas si on en ce moment.
Et ben, la météo martienne.
Martienne. Ok.
En tout cas, c'est cool de l'observer.
Super.
Et le matin, tôt, il y a Vénus.
Oui.
Pareil, une grosse bille lumineuse. Souvent, c'est la dernière qui brille dans le ciel, quoi. Et là, au télescope, bah, c'est pareil, on voit surtout les phases de Vénus. Alors là, je
Oui, on
l'observais
va.
à l'œil nu, j'ai pas observé au télescope, donc je sais pas si on voit des phases en ce moment. Les
Ouais, même aux
phases.
jumelles, on peut
On
deviner,
peut
je pense, les
voir
phases.
les
Mais
phases, je rappelle juste,
je sais pas, ouais.
c'est quand, comme la Lune, elle fait des quartiers, bah,
Oui.
Vénus, elle a des phases
Oui.
pareilles, quoi.
Ça, c'est parce que c'est la seule planète qui fait ça parce qu'elle est à l'intérieur. En fait, elle est plus proche du Soleil que nous.
Ah
Son
oui,
orbite
d'accord.
est intérieure. Et donc du coup ça génère cet effet de phase comme la Lune. Bon, là c'est de la géométrie, on va pas détailler aujourd'hui. Là c'est le ciel ce soir.
Ok.
Ok. Et ben merci Pierrick. Et au passage, tu voulais nous rappeler un petit peu quelque chose sur le. En tout cas, rappeler l'envie qu'on avait de monter ce club. Parce que là, moi, quand je t'entends parler du 115 et des petites observations planétaires, bah, je trouve que c'est typiquement le genre d'observation parfaite pour que les gens aient envie de mettre l'œil à l'oculaire, en fait.
Ouais, c'est sûr. Du coup, on rappelle qu'on veut monter un club.
Et qu'on cherche un lieu.
On cherche un lieu et des gens motivés.
Surtout un lieu, parce que des gens, on a de plus en plus, en fait. Et voilà. Donc, on a mis en place un mail de l'émission, on peut le rappeler, astro-rdwa.
astro-rdwa@protonmail.com.
C'est ça.
Voilà.
Ok.
Ok.
Alors voilà pour cette rubrique d'actualité. On va passer au point d'astronomie. Et donc là, je vais clôturer la série de trois émissions sur les mesures de distance. Donc là, on va aller plus loin. C'est-à-dire que la dernière fois, on avait parlé des céphéides, et donc qui permettaient de mesurer les distances dans notre galaxie et des quelques galaxies les plus proches, mais que on avait une limite à cette méthode. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin? Parce que les astrophysiciens, ils étudient l'univers à grande échelle. Donc, on est à grande échelle, on est dans non seulement les galaxies, mais même les amas de galaxies et voir les structures. Comment est-ce que les galaxies s'organisent dans l'univers? Donc, forcément, là, on est beaucoup plus loin. Alors, pour expliquer comment. Alors voilà, la méthode qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. Alors ça mérite explication. Le décalage vers le rouge, ça n'a rien à voir
Avec la
avec la
rouge.
boisson. Voilà, c'est. On parle de lumière, là. Et donc je vais commencer par parler d'effet Doppler. Alors l'effet Doppler, peut-être vous connaissez ou pas. L'exemple qu'on donne tout le temps en fait de l'effet Doppler, c'est quand vous êtes par exemple assis au bord d'une route sur un banc et qu'il y a une voiture qui, ou une ambulance qui passe, ou une sirène en fait, quelconque qui passe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le son, quand vous entendez le son de la sirène, quand il s'approche de vous, il est plus, vous le percevez plus aigu, alors que quand il s'éloigne de vous, on le perçoit plus grave. Donc il y a un effet comme ça. C'est pas juste plus fort, plus faible, il y a aussi plus aigu, plus grave en fait. Donc ça, c'est un truc, bon, c'est un phénomène physique ultra connu, ultra étudié, on connaît toute la théorie là-dessus. Là, on parle du son, mais en fait, ça s'applique à toutes les ondes. Et donc, ça s'applique aussi à la lumière. Et donc, ça veut dire quoi? En fait, ce que dit l'effet Doppler, alors l'effet Doppler, on l'utilise dans les radars, dans les sonars, les choses comme ça, ou même c'est aussi là-dessus qu'est basé le vol des chauves-souris. C'est en fait, on envoie l'onde qui nous arrive. Sa fréquence dépend en fait du mouvement de la source qui a émis cette onde. Si j'ai quelque chose qui bouge, donc par exemple une sirène, et qui approche de moi, et eh ben ça va être plus aigu. La fréquence va changer en fait.
Ok, ça va être plus rapproché
Donc on parle là d'onde, de signal, d'information, d'accord? Et donc ben, une onde, ça a une fréquence ou une période, mais ça c'est la même chose. Donc on va parler de fréquence pour faire simple. Donc quand quelque chose s'approche de moi, la fréquence du son en fait, elle augmente, le son
là.
devient
Ouais.
plus aigu. Et à l'inverse, la fréquence diminue, quand ça s'éloigne, le son devient plus grave. Ok. Et ben ça on l'observe aussi pour la lumière et en fait pour la lumière tout court. Donc pour continuer l'exemple. Imaginons en fait une lampe blanche, une lampe classique. Vous l'imaginez qui s'approche de vous. Et bien en fait cette lampe va prendre une teinte bleutée. Et si au contraire elle s'éloigne de vous, la lumière que vous allez percevoir va être plutôt rouge.
Ok, ouais. La couleur change,
En fait c'est la
la
fréquence qui
fréquence
change.
change.
Or la couleur c'est la fréquence.
Ok, ouais.
C'est la même chose en fait. Et le bleu, c'est une fréquence plus élevée que le rouge.
D'accord.
Alors, voilà, ça donne une idée. Si je vais peut-être pas forcément détailler plus que ça parce que j'ai peur de vous perdre, de ne pas être suffisamment clair. Donc, ça va donner en tout cas cette idée-là de. Et donc, on revient à ce que j'ai dit au départ, la méthode pour mesurer les distances, parce que je ne me perds pas, c'est le décalage vers le rouge. Donc on y revient. Décalage vers le rouge, ça veut dire quoi? Qu'un objet qui s'éloigne de moi, donc en l'occurrence là on parle d'astronomie, donc une étoile, donc une galaxie, qui s'éloigne de moi, en fait, sa lumière va être décalée vers le rouge.
D'accord.
Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le spectre que j'observe, donc j'ai déjà expliqué le spectre de la lumière, c'est-à-dire on observe toutes les longueurs d'onde qui sont dans la lumière, et donc toutes les fréquences qui sont émises, et ça va nous donner des informations sur quels sont les éléments chimiques qui ont émis cette lumière.
Ouais, la composition.
Et principalement l'hydrogène, puisque c'est quand même 90% de l'univers qu'on observe. Donc du coup, par exemple, on pointe une galaxie, on fait son spectre. Et on va trouver les raies caractéristiques de l'hydrogène, mais on va les trouver décalées. Elles ne sont pas à leur longueur d'onde normale, en fait, si la galaxie avait été immobile, ou si je prends la même chose en laboratoire. Elles sont décalées vers le rouge. Et donc c'est ça en fait qu'on utilise parce que et là on en parlera aussi dans la troisième partie, dans la dernière partie de l'émission, dans la rubrique Abrac qu'on va consacrer à Edwin Hubble, parce que c'est lui qui a découvert en fait que toutes les galaxies qu'on observe s'éloignent de nous.
Ok.
Et que plus elles sont loin de nous, plus elles s'éloignent vite. Alors là ça demande quand même réflexion, donc je répète. Toutes les galaxies qu'on observe autour de nous s'éloignent de nous, et plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite. Donc ça, c'est en fait dû à ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. C'est-à-dire qu'en réalité, l'univers qu'on observe, donc ça, c'est des idées qu'on a déjà, que vous avez probablement, que tout le monde a déjà plus ou moins croisé, alors plus ou moins creusé aussi, mais au moins croisé, cette idée que l'univers est en expansion. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors on va faire une petite analogie. On est obligé quand on parle de ces mesures de distance, de redshift. Alors ça c'est le mot anglo-saxon de décalage vers le rouge, et qui est aussi beaucoup utilisé, donc je m'excuse si
Ah
parfois
oui,
il me
ok.
vient à la bouche. Et donc c'est intimement lié à cette expansion de l'univers. Alors je prends l'exemple, On prend souvent l'exemple pour expliquer du cake au raisin. Alors on imagine, on fait un cake, un gâteau, avec des raisins dedans, des raisins secs, et on met ça au four. Donc dans le modèle, la pâte du gâteau, on va dire, c'est un peu la trame de l'espace-temps.
C'était ouf, ces astrophysiciens, c'est quoi cette comparaison?
Et les grains de raisins secs représentent les galaxies, en fait, qui sont disséminées dans l'univers. Donc on imagine maintenant, le gâteau se met à cuire, en fait, et ben on imagine bien, en fait, il se met à gonfler, toute la pâte, en fait, se met à gonfler. Et donc si vous, vous imaginez que vous êtes sur une de ces grains, vous êtes sur un de ces grains de raisin, parce que vous êtes dans cette galaxie, la nôtre, et ben en fait, la pâte autour de vous, elle se met à gonfler tout le temps, et donc toutes les galaxies s'éloignent. Et plus vous êtes loin, en fait,
Et nous aussi, on gonfle.
plus vous voyez un raisin qui est loin, en fait, et plus il s'est éloigné de vous parce qu'il y a plus de pâte entre vous, en fait. Est-ce que voilà, donc c'est ça l'image qu'on donne. Je ne sais pas si
Ah, le
c'est
grain de
clair ou
raisin, il
pas.
grossit pas, mais.
Non, le grain de raisin ne
Ah
grossit pas,
oui,
mais c'est en fait c'est l'espace entre les grains qui se met à prendre du volume.
voilà. Ok.
Donc c'est une image en trois dimensions de quelque chose qui est beaucoup plus complexe et qui n'est pas de toute façon réellement concevable par notre cerveau. Mais on essaye d'avoir quand même des espèces d'approches pour essayer de comprendre des choses. Voilà, en tout cas, il y a ce phénomène d'expansion de l'univers, j'en reparlerai. Donc avec Edwin Hubble, c'est lui qui l'a découvert. Et donc ça fait que effectivement toutes ces galaxies s'éloignent. Et donc la méthode du décalage vers le rouge, c'est-à-dire que ce taux d'expansion de l'univers, en fait, la façon dont l'univers il s'étend, en fait, on l'a mesuré. On sait combien ça fait. Et donc du coup, quand moi je mesure une galaxie, je fais le spectre d'une galaxie lointaine. Je regarde et je cherche toujours les mêmes raies, les raies d'hydrogène, les raies machin, bon. Et que je les observe décalées, donc je sais de combien elles sont décalées. Je mesure ce décalage vers le rouge et du coup je connais la distance. Parce que je sais on va dire, quel volume d'univers il faut en tenant compte de l'expansion qu'il a pour faire cet éloignement.
D'accord.
Donc c'est ça en fait le concept c'est ça en fait qui nous permet de mesurer la distance à grande échelle. Donc si vous regardez un peu de littérature sur le sujet, on parle tout de suite de Z, on le note petit Z.
Le
Le
redshift,
redshift,
le
le
Z.
décalage vers le rouge. Voilà.
Et du coup, on mesure le temps un peu aussi, au passage, si on mesure.
Alors, on ne mesure pas le temps. Par contre, si on connaît la distance, on sait en fait, on voit l'objet tel
Combien
qu'il était
il y a.
il y a tant de
Ouais.
temps. Voilà. Ouais, mais ça, c'est encore autre chose. C'est toujours cette idée en astronomie que observer loin, c'est observer dans le passé. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce point d'astro et donc clôturer cette série sur les mesures de distance. On va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve après. bon retour dans l'étoile polaire sur RDWA 107.5, l'émission d'astronomie amateur. C'était un morceau de Deep Purple qui s'appelle Our Lady. On s'est rendu compte avec Pierrick pendant la pause musicale qu'on avait complètement oublié le sujet d'actualité, alors on va le traiter maintenant. Et on voulait vous parler des astéroïdes interstellaires, ou en tout cas de cette idée que peut-être parmi les astéroïdes qu'on observe, il y aurait des astéroïdes qui viendraient d'autres systèmes planétaires que le nôtre. Alors, Pierrick.
Et ben, en ce moment, c'est la question qu'on se pose, ouais. Parce qu'on a observé des objets étranges, quoi, des sortes d'astéroïdes, hein, qui ont une orbite tellement particulière qui viendrait selon les schémas qu'on connaît et qu'on peut calculer, qui viendrait de l'espace interstellaire ou
D'autres étoiles,
ou
en fait,
d'autres étoiles plus lointaines,
ouais,
quoi.
qui auraient elles-mêmes des systèmes planétaires.
Voilà,
Ouais.
ouais. Comme un peu des visiteurs venus d'ailleurs. Donc c'est un peu trippant quand même. En même temps, on est sûr de rien par rapport à ça
Ouais.
encore. Mais je trouvais ça intéressant d'en parler quand même, parce qu'on en parle beaucoup ces temps derniers.
Parce qu'effectivement, j'ai vu aussi l'article, et donc en fait, il se base quand même, j'ai l'impression, beaucoup sur l'idée que l'orbite est très très elliptique, et surtout qu'elle n'est pas du tout dans le plan de l'écliptique,
Ouais, elle est plutôt perpendiculaire à
même carrément
l'écliptique. Ouais.
perpendiculaire. Ouais. Alors
Alors.
moi, ouais, la question que je me suis posée et qui se pose aussi, hein, c'est du coup, est-ce que ça viendrait pas plutôt du nuage de Oort?
Bah, c'est possible aussi, donc il y a beaucoup d'incertitudes. Ouais. En tout cas, ça viendrait de très loin. Au-delà bien au-delà de Neptune, quoi, vraiment, même au-delà de Pluton et de la ceinture de Kuiper. Et que du coup, c'est des nouveaux objets que maintenant on arrive à détecter et. Voilà, on sait pas grand-chose sur eux. On suppose que c'est des petits extraterrestres qui viennent voir ce qu'on fait. Mais
Peut-être, mais en tout cas, c'est sûr que ce serait intéressant de pouvoir étudier des astéroïdes qui viennent d'autres systèmes planétaires, quoi. Après, je me dis que la probabilité qu'il y en ait qui soient éjectés de leur système, qui traversent tout l'espace interstellaire pour arriver jusqu'à l'étoile d'à côté, c'est quand même.
Bah, ils disent que c'est très peu probable, c'est
Voilà.
infime. Parce qu'il faudrait avoir croisé du coup un système planétaire à un moment donné pour pouvoir qu'il y ait des objets de ce système qui viennent s'accrocher au Soleil. Ça c'est pas évident du tout
Ouais, de le
quoi.
croiser ou que lui il se soit fait éjecter plutôt, je pense.
Ah oui, l'autre éjecté. Ouais. Le système solaire il est sur un plan, à l'écliptique. Et du coup, ces objets, ils sont plutôt perpendiculaires à ce plan, et peut-être qu'ils viendraient du nuage de Oort,
Oui, c'est ça,
qui est plutôt sphérique autour
même
du Soleil,
complètement,
complètement sphérique,
ouais.
plutôt qu'une ligne. Donc peut-être qu'on imagine que ces objets viennent de super loin, mais qui sont quand même dans l'orbite solaire. C'est ça, hein.
Ça c'est possible, mais c'est vrai que le nuage de Oort, lui, comme il est sphérique, donc tu peux très bien avoir un objet qui vient du nuage et qui a une orbite du coup complètement différente de l'écliptique. Donc ça on sait pas trop. Ok. En tout cas, nous ce qui
Voilà.
nous intéressait là ce soir dans l'émission, c'était de vous parler de l'existence de ces objets. Voilà. Que les astrophysiciens ils commencent
À
à
observer,
observer ça, à se dire tiens, ça c'est peut-être quelque chose qui vient vraiment d'ailleurs, quoi.
ouais, il
Voilà.
y en a plusieurs, ouais, il y en a notamment un qui a été découvert par un amateur, Borisov. Je trouve ça intéressant quand même.
Les amateurs, ils gardent toujours ce petit côté découverte de
Ouais.
supernova, découverte de comètes, découverte de. Ouais.
Donc c'est quand même classe.
Ok. Alors on va passer à la chronique spatiale.
Allez.
Et donc Pierrick, là tu vas nous parler du télescope spatial Hubble, le fameux télescope spatial Hubble. Donc c'est quand même lui qui a nourri Internet de photos quand même incroyables, quoi.
Ouais, encore maintenant, il est au top, quoi. Et du coup, ouais, ce télescope, il a beaucoup fait parler de lui, et encore maintenant, il est très actif. Donc c'est la NASA qui l'a mis en opération, qui est en opération depuis 1990. Et donc il a quand même un miroir de 2,4 mètres de diamètre. Donc en orbite, c'est quand même quelque chose.
Ouais.
Je vais faire un petit point historique pour parler du télescope. Pour ce faire, je vais parler de Hermann Oberth en 1923, un pionnier de l'astronautique avec Konstantin Tsiolkovsky, ce que j'avais déjà parlé pour les quand j'ai fait ma chronique sur les lanceurs, sur les fusées. Voilà, c'est vraiment des pionniers au début qui avaient déjà imaginé ça, de lancer dans l'espace un télescope qui avait beaucoup d'avantages de le mettre dans l'espace.
Ben, l'intérêt, c'est qu'on s'affranchit de l'atmosphère,
Mais
c'est
ouais.
ça l'idée. Et l'atmosphère, c'est quand même quelque chose qui dérange beaucoup les astrophysiciens, parce que l'atmosphère, elle absorbe beaucoup de rayonnement, elle transforme la lumière, elle la diffuse. Donc en fait, c'est une source d'erreurs dans les mesures, en fait, et
Exactement.
comme un écran, en fait. Donc là, c'était ça, aller dans l'espace pour s'affranchir de ça, quoi.
Et ouais. Et donc, plus récemment, en 1946, c'est l'astronome Spitzer qui commence à publier un article sur, donc, plus concret sur les avantages d'une mise en orbite d'un satellite, comment on pourrait faire, etc. Et donc, c'est lui qui a été nommé à la tête d'une commission pour élaborer ce projet. Donc Spitzer, c'est aussi un autre satellite d'infrarouge qui est en orbite pour observer les étoiles. Donc voilà, les avantages, c'est comme on disait, c'est il n'y a plus les turbulences atmosphériques. Donc ça peut être la météo aussi, comme on disait. Puis ça permet d'observer l'infrarouge et l'ultraviolet, parce que c'est ceux-là qui sont interceptés dans l'atmosphère. Donc voilà, tous ces avantages. Et donc ce télescope a été envoyé par la navette spatiale. Donc le destin du télescope Hubble est intimement lié à la navette spatiale en fait, parce que l'un va avec l'autre et inversement. En fait, cette navette a été développée pour transporter des gros trucs dans l'espace. Notamment, ils voulaient faire une station spatiale, mais finalement, ils n'ont jamais eu le budget pour le faire. Du coup, il n'y avait pas de raison d'être de cette navette. Du coup, Hubble est devenu la raison d'être un peu au début, en partie quoi.
D'accord.
Donc tout a été pensé avec la navette spatiale. Donc sa taille et pour être réparée, tu vois, dans la navette spatiale, il y avait une espèce d'énorme bras là qui pouvait accrocher le télescope pour le réparer. Et donc aussi tout est conçu pour être réparé à la main. Tous les assemblages, ils sont faits. Pour être démonté avec un seul outil, par exemple.
D'accord. Pour que ce soit
Tout
simple, quoi.
est fait pour que ça soit super simple, les connectiques, tout ça. Ça a été beaucoup réfléchi, ça a été beaucoup mis en procédure pour bien savoir comment on répare ça une fois en l'air. Donc c'est ça, c'est assez intéressant, ouais. Et du coup, ils l'ont envoyé en 90.
Et là,
Et donc là, ils ont envoyé Hubble dans l'espace.
et qu'est-ce qu'il voit?
Et là, là c'est rigolo quand même. Il découvre qu'il y a une aberration dans l'optique.
Eh ouais, il est myope,
Il est flou quoi.
il voit
Voilà.
rien. Eh ouais.
Donc ça, c'est assez ouf quand même.
Ça, c'était quand même la grosse blague, c'est-à-dire la grosse mission spatiale avec des budgets quand même
Ouais,
pharaoniques.
un milliard de
Et
budget.
le truc arrive dans l'espace, en fait, c'est mal réglé, quoi.
C'est flou.
Et donc, il faut intervenir.
Et ouais, du coup, ils se rendent compte que la courbure du miroir primaire, donc le gros miroir de 2,4 mètres de diamètre, ben en fait, il est pas correctement poli.
Ah, c'était un problème de polissage.
Ouais, il est. Sur les côtés, il y a une erreur de mesure, en fait, il est pas complètement concave, il y a un truc
OK.
au bord qui va pas, quoi. Et ça, apparemment. Ce que moi j'ai vu, c'est que dans les chiffres, ceux qui ont fait ça, ils l'avaient vu, mais ils pensaient que c'était dû à une erreur de mesure et ils sont pas allés plus loin dans le truc.
Eux, ils ont dû se faire taper sur les doigts, mais
Je sais pas.
légèrement. Légèrement.
Et donc en 1993, il y a la première mission de maintenance. Donc pour corriger ce défaut. La NASA a imaginé une solution. Donc ils ont longtemps hésité à est-ce qu'on va la
Ouais,
réparer ou pas, machin.
il y avait tout un débat à l'époque.
Ils y sont quand même allés parce que l'erreur sur le miroir primaire, la courbure, l'erreur de courbure, en fait elle est homogène partout. Et c'est partout la même. Donc ils se sont dit si on met
sont mis une lentille
un
en fait.
dispositif au-dessus, mais qui a la même anomalie mais inversée, on arrivera à corriger ça.
C'est vraiment le. En fait, c'est vraiment. Ils ont joué aux opticiens, en fait. Ils sont allés poser une lentille devant pour lui corriger son défaut. C'est exactement ce qui s'est passé, quoi. Sauf que c'est dans l'espace, des milliers de kilomètres.
Donc, ils ont réussi à le poser après 6 à 8 heures de travail. Donc, là, il faut imaginer les astronautes dans l'espace pendant 6 à 8 heures en train de bidouiller des trucs avec la Terre en ligne de vue, quoi. C'est quand même ouf. Pendant 5 jours, ils ont fait ça. Ils étaient 3. Je sais pas si t'imagines d'aller dans l'espace, sortir le bras de la navette, attraper le télescope, le mettre dans la navette et bosser dessus pendant 6-8 heures.
En même temps, c'était leur rêve à cet type-là
de faire ça. C'est ouf quand même. Comme quand t'es sur un grand toit, bon, tu tripes un peu.
Et t'as la Terre au fond, tu vois.
Ouais, quand même.
Peut-être la Lune, on sait pas. Ok, donc,
voilà, donc ils ont réussi.
Ils ont réparé.
Ouais, et de là, en fait, c'est bon. Ça a
marché,
et là, c'est
parti, et de là, vraiment, c'est clair qu'il y a quand même énormément d'avancées qui ont été faites. Alors, pas fort théoriquement, mais déjà visuel, enfin, déjà, de voir le ciel, c'est vraiment hyper beau, les photos que Hubble il a sorties. Ça fait rêver du monde, quand même. Et après, derrière, il y a quand même tout un tas de mesures qui ont été faites vraiment, vraiment intéressantes et qui ont vraiment, vraiment fait avancer l'astronomie moderne, quoi, ça, c'est sûr.
Et du coup, si je finis un peu, je parle de technique du télescope. Donc, il fait 11 tonnes, quand même, on se rend compte du machin. Il fait 13 mètres de long. Et le télescope, il a une architecture type casse-grain. Alors, c'est que la lumière, elle rentre. Elle tape sur le miroir primaire, elle va taper dans un miroir secondaire plus petit au centre, plus haut, et elle revient dans les instruments de mesure. Voilà, type casse-grain. Elle orbite à 600 km de nous. Et il y a un truc que je voudrais te parler, c'est que pour orienter le télescope dans l'espace, parce que c'est pour pointer un truc longtemps, ou pour le mettre dans une direction que tu as envie, en fait, ils utilisent une roue de réaction.
Explique-nous.
Alors c'est
ce qu'est donc cette bête.
C'est comme tu utilises un volant d'inertie, une espèce d'énorme poids qui tourne sur lui-même.
Ouais.
Et à partir de là, en fait, tu arrives à faire un peu bouger, à briller.
C'est un gyroscope.
Voilà, à briller le télescope pour l'incliner à un endroit. Mais c'est que sur un axe. Hein. Tu peux pas. Après, des fois, ils en ont plusieurs pour pouvoir les incliner dans un sens ou dans l'autre.
Ouais.
Voilà, moi ça m'a fait penser à ces images de science-fiction où dans les gros vaisseaux t'as toujours une espèce d'énorme anneau qui tourne autour. Enfin bref.
Un ruban de Moebius.
Ouais. Voilà. Donc du coup, comme on disait, les résultats de Hubble, c'est une grosse cartographie des étoiles.
Ouais.
Même dans les autres galaxies, par exemple dans la galaxie d'Andromède, c'est un tiers des étoiles cartographiées. C'est aussi le trou noir au centre des galaxies. C'est la première fois un peu qu'on s'est dit, tiens, au centre des galaxies, on voit apparemment dans beaucoup de centres de galaxies, il y a un trou noir.
On rappelle que les trous noirs, on a vaguement vu une image la première fois l'année dernière. Hein. Donc après tout ça, ça reste des théories, des modèles. C'est surtout qu'ils observent des grosses masses, qu'au centre c'est vraiment dense. Donc ils imaginent que pour que dans des zones aussi réduites de l'espace, il y ait autant de densité de matière, il doit y avoir des trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Ça reste des modèles.
Ouais, c'est sûr. On a observé beaucoup les formations d'étoiles dans les pouponnières d'étoiles.
Ouais.
Ça c'est comme tu parlais, les images de nébuleuses.
Ouais, c'est
magnifique.
Ça.
Voilà, ça a pu observer aussi une comète qui s'écrase sur Jupiter. Ça aussi c'est classe.
Shoemaker-Levy.
Ouais, c'est ça. Voilà, faire tout ça.
Ça c'était beau quand même, hein. Les ondes de choc dans l'atmosphère de Jupiter.
Ouais, ça c'est un joli spectacle à voir.
Elle s'est fragmentée, la comète, elle est arrivée, il y a plusieurs morceaux qui sont tombés.
On voit bien les espèces d'impact.
Ouais.
Voilà, Hubble. Et là il y a un nouveau télescope pour le remplacer, ce sera le James Webb. Voilà, qui sera encore plus performant.
Ouais, plus gros aussi, j'imagine.
Plus gros, plus. Qui demandera pas de maintenance. a priori.
Il est autonome. C'est un robot en fait. C'est un drone qui s'envoie là-haut en fait. Ok.
Parce que du coup, le télescope, là, la dernière fois qu'ils sont allés le voir, c'était en 2011. Parce qu'il y avait encore les. En 2009, pardon, il y avait encore les navettes spatiales. Mais depuis qu'il n'y a plus de navettes spatiales, en fait, elles ont été arrêtées. Du coup, il n'y a plus de maintenance possible, en fait, pour Hubble. Tout marche bien pour l'instant,
Donc
mais
c'est
voilà.
l'obsolescence programmée.
Ouais.
Pour Hubble aussi, quoi, il échappe pas. Il peut très bien marcher, mais il n'y a plus rien pour le réparer, donc à la casse.
Façon, petit à petit, il tombe dans l'atmosphère.
Bon, de toute façon, tout ça a toujours une durée de vie, quoi. Ça peut pas rester éternellement en l'air sans dommage, quoi. Sans usure. Ok. Bah écoute, merci Pierrick pour tout ça, toute cette saga du télescope Hubble. Et moi, je vais donc enchaîner avec la dernière partie de l'émission, la rubrique à braque, et qu'on va consacrer aujourd'hui à Edwin Hubble, donc qui a quand même donné son nom à ce télescope. Donc Edwin Hubble, c'est vraiment, vraiment un grand nom en fait de l'astronomie moderne. Donc lui, il est né à la fin du 19e siècle. Et il a commencé en fait, il a fait des études universitaires, il s'est tourné vers l'astronomie très vite. Et en fait, il a fait une première énorme découverte. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un gros débat sur ce qu'on appelait les nébulosités. Donc là, on est dans les années 20, 1920. Donc effectivement, si on prend donc un petit télescope, une petite lunette, qu'on commence à pointer le ciel, alors ok, on observe les planètes, on observe la Lune. On en a déjà parlé de tout ça. Hein. On observe les étoiles, mais on réalise bien que, hormis quelques-unes qui sont éventuellement doubles ou qui ont des couleurs, il y a rien à observer. C'est trop loin. On n'a que des points lumineux dans l'image. C'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Et puis, quand on continue à observer, ben, on voit même à l'œil nu, de toute façon, qu'il y a quand même des taches. Des taches floues, laiteuses, un peu partout dans le ciel, en fait. Et que plus je peux grossir, plus je vois de taches laiteuses. Mais donc on a appelé ça des nébuleuses. C'est nébuleux, c'est flou, qu'est-ce que c'est, on ne sait pas. Alors évidemment, il y a l'idée du gaz quand même, assez vite quand même, du gaz luminescent qui fait ses formes, etc.
La poussière, non, un peu.
Ouais, ça revient un peu au même quand je dis...
Ah ouais, ok.
Donc de la matière, quoi. Et donc le truc avec Hubble, c'est que lui, il se penche sur ces nébulosités. Et il va utiliser en fait la méthode de mesure de distance dont on a parlé la semaine dernière, des céphéides. Et il va l'appliquer en fait à ces amas d'étoiles qu'il voit. Parce qu'il y a quand même les nébulosités, elles ont quand même différentes formes. Et pour ceux qui ont déjà mis l'œil à l'oculaire ou qui ont déjà vu des images, une galaxie, on voit bien quand même que c'est pas la même chose que juste du gaz comme les dentelles du cygne, par exemple. On voit bien que c'est pas du tout pareil. Et on voit bien que dans une galaxie, il y a des étoiles. Peut les résoudre. Donc lui, il a quand même à sa disposition un télescope de 2,50 m de diamètre. Donc c'est marrant, c'est la même chose en fait que ce qu'ils ont envoyé à
Ouais.
Hubble, tu disais.
Ouais.
Mais lui, il est au sol. Donc 2,50 m, ça fait déjà un bel instrument quand
Bah
même, hein.
ouais, c'est clair.
Donc avec ce télescope, il va donc déterminer les distances des étoiles de certaines de ces nébulosités en fait. Et là, il va trouver des distances qui vont lui dire, mais attendez, ça en fait, ça fait pas partie de notre galaxie. Parce qu'on a déjà une idée de la taille à peu près de notre galaxie, j'ai dit à peu près 100 000 années-lumière de large et enfin de diamètre, et puis 10 000 années-lumière à peu près dans son bulbe central. Donc on a une idée des dimensions des galaxies déjà. Et là, si on commence à trouver des distances grâce à la mesure des céphéides, qui sont de l'ordre du million d'années-lumière, bon, ben d'un coup, là, on sait qu'on est plus loin, quoi. On est ailleurs. Donc, en fait, Edwin Hubble, c'est le premier, et là, on est en 1923-1924, à dire, en fait, ben, il existe d'autres galaxies. Et moi, je les vois, et je mesure leur distance, grâce à cette méthode des céphéides, hein, la relation période-luminosité, et je vous dis, ça, c'est loin.
Ok.
Donc, c'est lui qui dit, le premier dit, il existe d'autres galaxies. Donc ça, c'est quand même énorme, déjà. Donc Edwin Hubble, il s'arrête pas là. Il continue à travailler. Et là, on arrive en 1929. Alors 1929, c'est quand même une date qui est célèbre dans le monde
Crack, crack
entier
boursier.
pour la grande crise mondiale qui a généré quand même pas pas mal de problèmes pendant 20 ans. Mais lui, pendant ce temps-là, il est occupé avec son télescope, en fait, et il est occupé à complètement autre chose. C'est-à-dire qu'il continue à mesurer les distances des galaxies grâce à sa méthode des céphéides.
Oui, donc il voit des étoiles, des céphéides dans ces galaxies,
Voilà,
et voilà. Là,
exactement, exactement.
il trouve des chiffres.
Il trouve les distances.
Ok.
Donc là, si ça vous intéresse plus et que vous n'avez pas écouté l'épisode 10, on vous renvoie à l'épisode 10 où on détaille cette histoire-là. Donc là, lui, en 1929, donc, il est toujours en train de mesurer des distances de galaxies. Et à côté de ça, il y a d'autres personnes qui travaillent sur, en fait, justement, le décalage vers le rouge. C'est-à-dire des gens qui commencent à observer les spectres des galaxies et qui commencent à réaliser qu'effectivement, eh ben, on trouve l'hydrogène, oui, mais pas à la même fréquence. On le trouve à une fréquence plus basse, décalée vers le rouge. Au passage, je le mentionne parce que c'est pas un truc qui est complètement évident, c'est pour ça qu'on fait de la radioastronomie. On parle souvent de radiotélescope. Mais en fait, si vous avez des objets qui sont très loin, leur fréquence, elle devient tellement basse qu'on tombe dans les ondes radio, en fait.
D'accord, ok.
On fera une émission sur le spectre total électromagnétique de la lumière, mais les ondes radio, c'est la même chose que la lumière, mais c'est la même nature, c'est une onde électromagnétique, mais la fréquence est beaucoup plus basse. Et c'est pour ça qu'on fait des radiotélescopes, en fait. Ça permet d'observer aussi des objets qui sont très loin. Ça permet aussi d'observer des objets qui émettent dans ces longueurs d'onde-là, de toute façon. Mais ça,
Mais
c'est encore une autre histoire. Ok.
prochainement, il y a une émission là-dessus.
Donc, il mesure ces distances et il collabore avec des gens qui mesurent, eux, des décalages vers le rouge de galaxies. Et du coup, ils disent, on va prendre les mêmes galaxies et on va mettre ensemble les données, on va voir ce que ça donne. Et là, d'un coup, ils découvrent donc ce qu'on a appelé la loi de Hubble-Lemaître, parce qu'il se trouve qu'il y a une autre personne, un Belge, qui a aussi travaillé là-dessus, finalement, on a mis son nom. Mais historiquement, c'est la loi de Hubble. Ils découvrent en fait que, eh bien, il y a un lien direct entre la distance et le décalage vers le rouge. Et que plus le décalage vers le rouge est important, plus la distance est grande et inversement.
Ok,
Donc
quand ils
en
mettent en
fait,
parallèle ça.
quand ils mettent en parallèle ça, en fait, qu'est-ce qu'ils montrent en fait? Ils montrent l'expansion de l'univers. C'est la seule explication en fait qui vient, quoi. Comment expliquer que tout s'éloigne de nous et selon une loi de vitesse qui est, voilà, qui est linéaire, quoi.
On en revient un peu au Kekoraisin.
Exactement. Donc voilà, tout ça, on en revient même exactement au Kekoraisin, à l'expansion de l'univers. Donc, et là, mais là, on est plus du côté du moment de la découverte avec Hubble. Et donc c'est ça la contribution, les deux contributions majeures de Hubble à l'astronomie, et elles sont quand même de taille. Premièrement, il existe d'autres galaxies. Deuxièmement, l'univers est en expansion. Et
Et
donc de là, cette méthode du décalage vers le rouge, du redshift, du mesure du Z pour connaître les distances en fait. Et d'ailleurs, les astrophysiciens parlent maintenant, enfin les cosmologistes, c'est-à-dire les gens qui étudient l'univers à grande échelle, ils parlent pas en distance, ils parlent en Z, ils parlent en décalage vers le rouge directement. Pour eux, c'est
Ah ouais,
équivalent à la
ok.
distance en fait.
Ah ouais. D'accord.
Voilà. Alors, j'en ai pas tout à fait terminé. Parce qu'il y a quand même une petite mention à faire qui est assez intéressante sur ce sujet. C'est quand même notre ami Albert Einstein, qui lui, en 1915, a publié sa théorie de la relativité générale. Donc ça, on en a déjà parlé un petit peu, on y consacrera clairement des émissions. Donc ça, on l'a déjà dit, mais c'est quand même une base vraiment fondamentale et toujours actuelle de toute la physique théorique moderne. Et donc, il pose ce concept d'espace-temps, etc. Et il se trouve qu'Einstein continue à travailler sur sa théorie. Et en 1917, donc on est 12 ans avant Edwin Hubble et ses observations de 1929, Einstein, en 1917, il introduit dans ses calculs ce qu'il va appeler la constante cosmologique. Alors, je vais faire bref. L'idée, en fait, c'est que dans les calculs, dans la théorie qu'avait développée Einstein de la relativité générale, quand on déroulait les équations, on avait déjà l'expansion de l'univers, en fait. C'est-à-dire que lui, par ses mathématiques, par sa vision de la nature de ce qu'était l'espace-temps, il prédisait l'expansion de l'univers, ce qui est quand
D'habiter,
même,
ouais.
au niveau conceptuel, énorme. Et en fait, lui, intellectuellement, c'était inacceptable pour lui. Il ne pouvait pas accepter philosophiquement ce que ses calculs, lui disaient comme vrai. Et donc, il a introduit ce qu'il appelait la constante cosmologique, donc sortie du chapeau, sortie de nulle part, sortie juste de conviction, en fait.
Ça, on a déjà parlé dans une émission.
J'en ai déjà parlé de ça.
Ouais.
Ouais. Et donc, de là, il dit non, l'univers doit être statique, et donc je mets cette constante pour qu'il n'y ait pas d'expansion. Et donc, 12 ans plus tard, eh bien, Hubble arrive avec l'expérience, la mesure, et lui dit, bah si, l'univers, il est en expansion. Voilà. Donc c'était cette petite mention que je voulais faire à Einstein qui a eu son énorme contribution et qui, enfin, je trouve que c'est intéressant parce que c'est un cas qui est assez rare en fait dans la science que quelqu'un truque ses équations volontairement en l'assumant pour des raisons philosophiques. C'est quelque
Et
chose qui est quand même assez
il
unique.
l'assumait ouvertement en plus.
Il me semble,
Ouais, hein, je crois
ouais.
aussi.
Voilà.
Il voulait pas choquer son
Il
monde.
voulait pas se choquer lui-même. Bon, en tout cas, c'est comme ça. On vous remercie d'avoir écouté l'émission. On espère que ça vous a intéressé et plu, peut-être. Et on vous dit à la semaine prochaine.
Merci beaucoup. Au revoir.